Fréquence Mistral.
Et bonjour à toutes et tous, auditeurs et auditrices de Fréquence Mistral. On a le plaisir de recevoir dans nos studios aujourd'hui Laurence Hébrard. Laurence Hébrard est directrice déléguée du Festival Toussaint-Son. Festival Toussaint-Son qui est un festival musique jeunesse, donc pour les jeunes. Donc c'est la 6e édition cette année. Bienvenue à toi Laurence.
Bonjour Yacine.
Bonjour Laurence. Donc c'est un festival qui va se dérouler du 1er au 19 décembre. Il y aura 48 représentations et déjà, je voulais commencer par cette question. Pourquoi un festival musique jeunesse? Pourquoi axé sur la jeunesse?
Alors, festival de création de musique jeunesse, c'est l'origine du... Alors, effectivement, la création s'était un petit peu perdue sur les 5 dernières années, notamment, et je vais encore y revenir, et j'espère une dernière fois, par rapport à la période du Covid, puisqu'il y a des super beaux projets qui sont sortis pendant cette période-là et qui n'ont pas été diffusés, produits et donc vus par le public, et c'était très très dommage. Donc, on s'était un peu assis là-dessus, et du coup, c'était important aussi d'y revenir, puisque c'était à l'origine de la création de l'association qui porte ce festival, de mettre en avant le travail des artistes tout au long de l'année. Et effectivement, il y a un public familial pour le spectacle, que ça soit les concerts, les spectacles musicaux, la danse, le théâtre, etc. Donc nous, effectivement, notre fer de lance, c'est la musique. C'est toutes les musiques, j'ai envie de dire, puisque ça va des musiques savantes contemporaines aux musiques actuelles. Et c'était important de les mettre en avant à un moment de l'année un peu festif, qui est le mois de décembre.
Oui, ben oui, effectivement, décembre, avant les fêtes de Noël pour les enfants, ça fait tout à fait sens. Justement, tu le dis, ce festival, c'est un festival de création. Cette année, vous avez mis l'accent sur la création, puisque si j'ai pris les bonnes notes, vous avez 15 spectacles qui ont été créés en 2024 et 6 premières qui vont être représentées pendant le festival.
Alors, c'est 15 spectacles, c'est 11 créations 2024 et effectivement, 6 premières, donc vraiment la première fois que ces spectacles-là ou ces concerts vont jouer. Alors, dans les 15 spectacles, ceux qui ne sont pas des créations, c'est aussi le fait de soutenir des projets qu'on a repérés et ou soutenus les années précédentes, notamment je pense à la cuisine musicale qui va jouer à l'Odéon. C'était le spectacle qu'on avait soutenu en coproduction en 2023. Et on avait comme ça produit une quinzaine de dates pendant le festival. Et en fait, tout le monde ne l'avait pas vu, même avec 15 représentations. Et du coup, il a été à nouveau sollicité par le public. Et du coup, la ville de Marseille le programme au Théâtre de l'Odéon pour 4 représentations. Et c'est déjà complet.
On passera à côté. Mais comme on dit, il y a 48 représentations. Donc, c'est pas... si certains sont déjà complets, on peut aller à d'autres.
Il y a plein de choses à voir, effectivement, en dehors de celui-là.
Justement, pour si demain, j'ai par exemple des amis avec des enfants, qu'est-ce que je leur dis pour les convaincre d'aller assister au festival?
Alors, qu'il y en a pour tous les goûts, qu'il y en a pour tous les âges, qu'il y en a pour tous les endroits aussi, parce qu'on est à Marseille, on est à Aix-en-Provence, on est sur le territoire de Seine-et-Sinée. Depuis l'année dernière, on va même sur le territoire du Vaucluse, puisqu'on va jusqu'à Pertuis. Je pense que l'année prochaine, on ira même encore un peu plus loin. Les nouveaux partenaires de cette année, c'est l'IDTech, Open Mirabeau. Ça nous permet, en fait, dans un territoire géographique accessible, effectivement, avec une voiture, un bus, etc., voire un vélo, de pouvoir effectivement se déplacer. Ça nous permet aussi de faire circuler les spectacles, c'est-à-dire de les proposer à proposer le même spectacle à plusieurs endroits. Ça, c'est hyper chouette. C'est par exemple le cas, puisque je parlais de l'IDTech Open Mirabeau. Du coup, c'est effectivement le fait d'accueillir un spectacle qui va jouer à la fois au Pic, à l'IDTech et à la Criée. Il s'agit de Jazz and Rap de la compagnie Enel, effectivement avec laquelle on travaille depuis un moment, et c'est la deuxième fois où on coproduit effectivement un spectacle avec eux, et ça c'est hyper chouette, ce qui veut dire qu'effectivement il peut y avoir des échos par rapport à ce que tu disais, de convaincre une famille, c'est oui, bah, tu peux aller à Marseille, mais du coup tu peux aussi aller ailleurs qu'à Marseille, effectivement, si tu as des amis qui sont pas forcément marseillais. Effectivement, on essaye de détailler à la fois sur la plaquette et sur le site internet et sur les réseaux sociaux, enfin là où on est présent, l'accessibilité en termes d'âge des enfants. C'est important de le respecter. Alors, c'est pas une question de comment dire, de mes enfants sont plus intelligents que les autres, donc ils peuvent aller à des spectacles qui s'adressent aux plus grands. C'est pas ça, c'est parfois par rapport à la thématique, par rapport à la durée du spectacle. Enfin, c'est important. Nous, on fait attention avec les compagnies, on discute énormément de tout ça. Et donc, finalement, c'est important aussi que les parents suivent ces recommandations là, justement parce qu'effectivement ça évite des pleurs, des cris, etc., etc.
Bon courage pour que les parents respectent ces recommandations. Justement, sur la création musicale jeunesse, j'avais une question là-dessus. Quelle est la différence entre une création musicale classique pour, on va dire, tout public, et une création musicale jeunesse? Où c'est que ça va se jouer?
Excellente question. Pour moi, en fait, comment dire, on peut voir le meilleur et le pire, en fait, dans l'adresse au jeune public. Mmh. Et quand un spectacle est très bon, il va toucher aussi, effectivement, les parents. Alors, vous allez me dire, c'est complètement subjectif. Pourquoi est-ce que moi je vais trouver un spectacle très très bon et peut-être quelqu'un d'autre le trouvera pas très très bon du tout? Il n'y a pas forcément une question d'universalité et tout ça, c'est vraiment une question d'émotion, de sensibilité. Je pense qu'en fait on ne peut pas se moquer des enfants. Dans le sens où effectivement il y a vraiment vraiment une exigence à avoir. Évidemment, il faut penser, comme je viens de le dire, c'est-à-dire effectivement l'adresse par rapport, il y a la durée, il y a effectivement le vocabulaire, oui. Les émotions, etc. Il faut beaucoup jouer là-dessus. Et donc ça veut dire qu'il y a vraiment une compréhension. Il faut toucher l'enfant, l'émotion. Il faut qu'il soit attentif. Et pour ça, effectivement, il faut aller chercher dans tous les recoins de son imaginaire. Et je pense que les acteurs, actrices, musiciens, musiciennes qui nous proposent les spectacles, on gardait cette âme d'enfant et l'exploite dans toute sa poésie, en fait, pour proposer le meilleur.
Oui, c'est vrai que moi, je repense en dehors de la musique, hein, mais je pense aux films Pixar qui sont aussi agréables à regarder pour les enfants que pour les adultes. Donc,
et on y trouve plusieurs degrés de lecture,
etc. C'est ça, il y a plusieurs degrés de lecture,
tout à fait,
qui rendent la chose encore plus intéressante, et on peut les regarder à plusieurs âges et voir quelque chose de différent.
Et les voir plusieurs fois même.
Et, ça, quand on est enfant, on les regarde même des dizaines de fois.
Ça.
Ma petite sœur est pas loin, je le sais. Oui. Justement, vous, pour la sélection des artistes, parce que j'imagine qu'il y a une direction artistique, comment vous faites pour choisir ces artistes qui viennent s'adresser à ce public jeunesse?
Alors, il y a vraiment une notion de fidélité, en fait. C'est-à-dire que depuis 6 ans, il y a des compagnies qui reviennent régulièrement, en tout cas, qui savent que ils peuvent nous appeler, nous contacter quand ils veulent, quand ils ont un nouveau projet. En coproduction, cette année, on a un spectacle qui s'appelle « Moi, mon chat » de la Mayrol Company, qui est marseillaise. Et en fait, Mayrol, on avait travaillé avec eux déjà pour l'année dernière avec un spectacle qui s'appelait « Dodo », qui s'adressait aux enfants à partir de 6 mois.
Ah, oui.
C'était un spectacle immersif qu'on a joué justement au Théâtre de l'Odéon. C'était vraiment hyper intéressant, hyper poétique. Enfin, c'était chouette, vraiment. Bah, tous les critères dont je viens de parler, là.
Ah, c'est incroyable. Alors, j'aurais des questions pour laisser le public 6 mois, parce que je suis curieux. Mais...
Oui. Et en fait, du coup, typiquement, moi, mon chat, ça fait un long moment qu'il travaille dessus. Et ça revient à ce que je disais au tout début de l'interview, c'est-à-dire qu'effectivement, avec la période Covid, tout ça, il y a pas mal de choses qui ont pris du retard. Et ils nous en ont parlé peut-être il y a 3 ans. Et effectivement, c'est cette année que effectivement, le spectacle, on l'a coproduit et qu'il y aura la première pendant le festival. Et du coup, effectivement, il y a comme ça cette écoute de compagnies qu'on connaît déjà. Et puis, on essaye effectivement de faire en sorte qu'il y ait des nouvelles compagnies. C'est le cas de Poussin Musique avec Allo Lola qui va jouer à l'espace culturel Busserine. C'est le cas de la compagnie Clandestine que beaucoup de Marseillais connaissent parce qu'effectivement, elle existe depuis longtemps sur le territoire des Alpes-de-Haute-Provence et maintenant sur Marseille. Mais effectivement, elle ne faisait pas partie du giron, en fait, du festival Tous Ensemble. Demain, il y en aura d'autres. Il y a à la fois une fidélité et une curiosité. Mmh. Et du coup, effectivement, c'est le travail d'une année, en fait, ce festival, dans le sens où on se retrouve sur des événements comme le Festival d'Avignon pour rester en région. Mais il n'y a pas que le Festival d'Avignon. Mais effectivement, c'est quand même un vivier de propositions qui permet effectivement de lier des partenariats avec des nouvelles compagnies.
Ouais, ce festival Tous Ensemble, tu en parlais tout à l'heure, c'est un festival qui est itinérant, donc qui n'est pas sur un seul lieu, puisque vous êtes à Marseille, mais aussi dans toute la métropole, ex-Marseille, et vous diffusez comme ça. Pourquoi ce choix justement d'en faire un festival multiple, à des multiples facettes ?
Alors au départ, effectivement, il est vraiment né à Marseille pour les Marseillais et avec un très gros soutien de la ville de Marseille, et financier, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des discussions tout au long de l'année avec l'équipe culturelle et tout ça sur leurs attentes, leurs besoins, comment est-ce qu'on peut les aider à répondre à leur politique culturelle. Et c'est hyper intéressant de bosser comme ça. On essaye, en fait, moi qui suis très administrative et production plus que artistique, même si j'ai une sensibilité qui me permet de aussi faire la programmation, mais et pas toute seule. Je suis très bien conseillée par mon équipe administrative de l'association et tout ça, parce qu'ils sont également dans ce milieu culturel là. Donc du coup, c'est effectivement trouver des partenariats et aller plus loin et en fait accompagner. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait d'être sur un territoire un peu plus large, c'est aussi de permettre aux compagnies de jouer effectivement plusieurs fois, que le public circule, que le spectacle circule et du coup et une vie en fait en dehors de l'été, etc., où il y a effectivement des festivals où ils peuvent jouer plusieurs fois. En fait, un spectacle mûrit énormément à jouer plusieurs fois, et le fait de pouvoir jouer 4, 5, 6, 10 fois et tout ça, c'est vraiment intéressant pour eux et du coup pour nous en termes de connaissances, représentation, de circulation des publics et tout ça. Donc ça répond à plein de missions du coup de nos partenaires institutionnels aussi, mais en fait c'est une réalité aussi de sensibilité de public, enfin de sensibiliser, je devrais dire plutôt le public effectivement à aller au spectacle et tout ça, donc du coup c'est important.
Et justement, alors je reviens dessus parce que je suis beaucoup trop curieux, mais comment un bébé de 6 mois, qu'est-ce qu'on propose comme spectacle pour qu'un bébé de 6 mois reste attentif et soit intéressé ?
6 mois, potentiellement, ça fait déjà peut-être un an qu'il écoute de la musique, parce qu'il y a des parents qui, effectivement, enfin, il y a des parents, en fait, tous les parents devraient, ou s'ils ne le font pas, mais ce n'est pas une injonction, mais bref, du coup, écoutent de la musique, eux, et s'ils en écoutent parce qu'ils amènent leurs enfants, effectivement, à un spectacle alors qu'il n'a que 6 mois, c'est potentiellement ce qui leur a déjà fait écouter de la musique alors que en fait, l'enfant était encore dans le ventre de la maman.
Oui, ma mère le faisait à l'époque. Je ne suis pas devenu très intelligent, mais elle espérait que c'était pour... ils avaient vu Mozart dans le ventre.
Je pense que ça ouvre malgré tout les esprits, les oreilles, les sens, en fait, tout simplement. Pour moi, ça vaut aussi avec les odeurs. J'avais un papa qui était chef cuistot, donc du coup, les odeurs et effectivement ce qu'on mange et tout ça, du coup... Quand on allait de son bébé, on dit souvent qu'effectivement le lait a un goût différent en fonction de ce que la maman mange et tout ça. Là c'est pareil, en fait, c'est-à-dire que effectivement avant même la naissance, potentiellement on fait écouter des musiques différentes aux enfants, et pourquoi pas à 6 mois.
C'est vrai que c'est, je serais curieux de voir des bébés y assister, parce que ça doit être
très chouette. Et du coup effectivement c'est là où l'importance du fait que ça touche aussi les parents, parce qu'en fait les parents sont aussi hyper attentifs, ils sont concentrés sur le fait de tenir. Alors évidemment à 6 mois il tient pas, donc au mieux il tient assis encore, et du coup il est dans les bras des parents ou des grands-parents, et du coup effectivement ils sont tous hyper attentifs. Et je reviens sur le fait que du coup il y a l'importance donc je parlais d'un spectacle, Dodo était un spectacle immersif, c'est-à-dire que tout le monde est assis et les musiciens en fait circulent à l'intérieur du groupe et autour du groupe, etc. Il y a du décor, il y a des musiques, évidemment on n'est pas sur des décibels de musique actuelle, même si on respecte dans les concerts effectivement toutes les on fait pas péter les décibels mètres, quoi, mais bref, du coup là typiquement pas, et effectivement tout le monde, c'est la musique circule, les émotions circulent, et c'est hyper chouette, quoi.
Ça donne envie en tout cas. Et alors j'avais une question quand même, parce que moi je suis toujours curieux du parcours des intervenants, et donc Laurence, vous êtes directrice déléguée du festival. Comment on devient directrice déléguée d'un festival musical jeunesse?
Création musique jeunesse. Du coup, en fait, moi, j'ai vraiment une formation universitaire pour travailler dans le secteur culturel au sens très, très large. Après, moi, j'avais une appétence particulière pour le théâtre. J'ai longtemps été directrice des affaires culturelles de plusieurs villes autour de Marseille, d'Aix. J'ai personnellement un parcours de musicienne, conservatoire, hyper classique et tout. Mais effectivement, moi, ce qui me plaisait, c'était effectivement de travailler dans le milieu du théâtre et tout ça, avec des comédiens et tout. Et finalement, aussi par amour pour un musicien, du coup, je me suis retrouvée à effectivement être plus... partie prenante, en fait, dans la production musicale. Et puis, j'ai rencontré mon prédécesseur en co-organisant des manifestations à Aix-en-Provence. Mon prédécesseur à la direction du festival, qui s'appelle Nicolas Lafitte, et que j'adore et que j'embrasse. Et en fait, du coup, il m'a proposé de travailler avec lui. Donc il y a 3 ans comme chargé de production. Et puis il est parti vers d'autres horizons, notamment il est retourné à Paris travailler à France Musique. Mmh. Et du coup, il m'a laissé sa place. Et enfin, il m'a coopté, puisqu'en fait, du coup, finalement, ça a été accepté par le conseil d'administration et la présidence. Et je suis ravie d'être là.
Bon, ben, ça sera le point pour tous les jeunes qui rêvent de devenir un jour directrice de festival. Donc, justement, Laurent, je voulais savoir, est-ce que vous avez un coup de cœur sur ce festival? Est-ce qu'il y a des spectacles que vous aimeriez conseiller en particulier? Je sais que vous allez tous me dire qu'ils sont tous très très bien, bien sûr. Mais est-ce qu'il y en a certains qui vous ont touché plus que d'autres, en tout cas?
Alors, c'est d'autant plus difficile d'en parler cette année, puisque comme il y a 11 créations, forcément, il y a 11 spectacles que je n'ai pas encore vus.
Ah oui, donc ça,
donc ça veut dire qu'effectivement, il y a vraiment aussi ce travail de discussion en amont avec les compagnies, comme je disais tout à l'heure, la fidélité, l'écoute, etc., etc. La confiance, notamment. Après, ce dont j'aurais envie de parler et de mettre en avant, c'est des spectacles qui permettent... Il y a la programmation, donc effectivement, les spectacles qu'on voit sur la plaquette, et puis il y a tous les partenariats qui se font autour. Donc il y a des choses hyper intéressantes, comme les aventures de Octave et Mélo, d'Adèle Moll, qui est effectivement journaliste et podcasteuse toujours à France Musique. Du coup, avec les aventures d'Octave et Mélo, qui est un podcast justement qui s'adresse aux jeunes publics, qui existe depuis plusieurs années et qui marche hyper bien. Ça marchait si bien que du coup, elle en a fait un spectacle. Et du coup, il va y avoir une petite originalité et même exclusivité, qui est qu'elle va être accompagnée par un nocturne composé de professeurs des conservatoires de Aix, de Marseille et de Istres.
Qu'est-ce que c'est qu'un nocturne?
Un nocturne, c'est 8 musiciens qui jouent ensemble, en fait. D'accord. Musiciens-musiciennes qui jouent ensemble et qui vont donc accompagner l'artiste qui, elle, est dans sa forme de spectacle, déjà accompagnée par sa bruitiste avec laquelle elle travaille justement pour les émissions à France Musique. Et donc, normalement, effectivement, il y a une forme duo où elles sont que toutes les deux avec une bande-son. Bande-son, pour nous, c'était pas envisageable. On est un festival de création de musique jeunesse, il fallait qu'il y ait des musiciens, des musiciennes sur scène. Et donc, du coup, on a fait appel à cet octuor, mais improvisé, enfin, improvisé dans le sens. La musique n'est pas du tout improvisée, mais par contre, l'expérience est exclusive et unique, puisque du coup, effectivement, cet octuor n'existe pas en dehors de ce spectacle. Peut-être qu'il continuera à exister après, mais c'est ce que je souhaite d'ailleurs. Mais voilà, c'est des belles expériences et ça permet de montrer aussi qu'il y a la programmation, mais il y a aussi tout le travail de relationnel avec effectivement les conservatoires ou des institutions, etc. Autour de
créer des ponts entre...
Tout à fait. Entre l'enseignement et la création de spectacles. Ça, c'est hyper important pour moi et ça fait partie de la jeunesse du festival, mais là, on le remet bien en avant et tout ça, et ça, c'est bien. Ça, c'est chouette.
C'est tout ce qu'on souhaite, en tout cas, de créer un maximum de ponts. Sur les tarifs de ce festival, les prix des places, ça va de combien à combien à peu près?
Alors, ça va de 0 euros.
C'est un bon
prix. Il y a
pas
mal de spectacles, effectivement, qui sont accessibles librement, en fait, notamment ceux de l'espace culturel Busserine, mais par exemple, il y a des tarifs à 3 euros, 5 euros, 8 euros. Généralement, on essaye le maximum du maximum, c'est censément 8 euros. Des fois, c'est un poil plus cher. Par exemple, à La Criée, il y a des places jusqu'à 14 euros, mais ça ne va pas au-delà. Du coup, on essaye vraiment d'être hyper raisonnable sur les tarifs proposés.
Donc, entre 0 et 14 euros. Voilà. Donc, ça reste des tarifs avant les fêtes, surtout quand on sait qu'on a les fêtes qui arrivent juste derrière. La petite question, quand même, c'est comment on fait pour réserver ses places? Comment on fait pour voir la programmation? Parce que, comme je l'ai dit, c'est 48 spectacles. On n'a pas le temps de parler de chacun d'entre eux, malheureusement. Donc, où c'est qu'on retrouve tout ça?
Alors, le plus complet, ça va être notre site internet, tousenson.fr.
D'accord.
Et après, on est effectivement sur toutes les plateformes, réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook, pour effectivement faire la promotion des spectacles. Sur le site, l'avantage, c'est qu'on voit effectivement ceux qui sont déjà complets. Il y en a à peu près 50% qui sont déjà complets. Il reste des places pour la première, parce qu'on a la chance de faire l'ouverture du festival à l'espace Julien, avec Rétropolis des Whipper Circus, qu'on avait déjà accueilli il y a 3 ans avec Panique dans la forêt. Et du coup, effectivement, la salle est très grande de l'espace Julien rénové, nouvelle équipe, etc. Et donc, du coup, il y a pas mal de réservations, mais il y a encore pas mal de places. Donc, du coup, il ne faut pas hésiter. Effectivement, c'est un tarif unique à 8 euros.
D'accord.
Je pense qu'on pourra même venir le jour même sans avoir préacheté sa place. Il ne faut pas hésiter.
Okay.
Mais sinon, on peut réserver sur tousenson.fr.
Tousenson.fr, donc pour toutes les réservations, toute la programmation. Laurence Hébrard, merci d'être venu dans nos studios. Et donc, bon courage et passez, on vous souhaite un excellent festival. Donc, du 1er au 19 décembre, tousenson.fr pour retrouver toute la programmation. Et merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci Yacine, à très bientôt.
Excellente journée.